Alors, cette semaine, donc la Speed Torah sur la paracha 3-4, il est extrait d'un sefer qu'on n'a jamais étudié, d'un contemporain, c'est ce sefer-là, Shabbat ou Moadim. Alors, qui est l'auteur de cet ouvrage? C'est le Rav Zev Freund. Vous ne le connaissez pas, c'est un Rav de Yerushalayim, un contemporain.
Zev
Freund, F-R-E-U-N-D. Et il habite à Yerushalayim, à Beit Vegan. Il donne shiur tous les Shabbats, et donc j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'écouter. C'est un grand ami chacham, très connu à Beit Vegan, il fait partie du Beit Din et tout. Il a des sichot très intéressantes. Et donc aujourd'hui, il va nous parler du début de la paracha sur l'histoire de la para Adouma qui rend pur ceux qui se sont rendus tamés avec un mort. Et il y a un fameux pasouk qui dit Zot à Torah Adam qui amut Beorel. Voici la loi, quand un homme il meurt dans la tente, oui, eh bien tout ce qui est dans la tente, lui, tout ce qui est dans la tente, homme et objet deviennent impurs, il faut les rendre purs avec les cendres de la vache rouge, tout le monde connaît ça. Et il y a un fameux mahamar de la Gemara dans Shabbat, qu'on va voir tout de suite, et qui va développer ici cette histoire, que ça veut dire un homme qui meurt dans la tente, et vous avez en verso et dans le bonus, deux autres textes qui vont compléter un peu cette histoire d'un homme qui meurt dans la tente. Alors, déjà, on démarre. Zot à Torah, Adam qui amut Beoel. Un homme qui meurt dans la tente. La Gemara demande en Shabbat, Amaresh Lakish. En divre Torah mit kaimin, ela bemish emimit atzmo alea. La Torah ne peut se conserver que celui qui meurt pour elle. Ça veut dire, Oel, toujours l'expression Oel, la tente, c'est la tente de l'étude. Comme c'est marqué Yaakov, il était Ishtam Yoshev Oalim. Donc toujours quand on parle de Oel dans la Torah, c'est une référence, oui, à l'étude de la Torah. Donc sous un plan allégorique, de midrashique, Resh Lakish dit que ça veut dire, voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente. D'accord? Ça sonne bien ça. On parle de Torah, on parle de tente. Le problème c'est qu'il y a un paradoxe. C'est qu'on parle de Torah, on parle de tente, on devrait parler de vie. Parce que la Torah c'est la vie. Donc, vous comprenez? Ouais. Donc on est hors du pshat, hein, on est dans le drash. Donc que veut dire voici la Torah, un homme meurt dans la tente. Ici on est au Bet HaMidrash, oui, on doit vivre dans Bet HaMidrash, c'est Torah Tchaïm. Alors Resh Lakish dit une phrase très brutale, oui, c'est celle-là qui va nous intéresser. Vous la soulignez, en divrei Torah mit kaimim ela bimi shememit atzmo alea. Les paroles de Torah ne se conservent que Mitkaïmi se conserve, mais Miché m'émit à ce moment-là que pour celui qui se tue pour elle. Ça veut dire qu'on doit être capable de se tuer pour la Torah. Alors, déjà quand je dis capable, j'oriente la compréhension. Est-ce qu'on doit se tuer, on doit être capable de se tuer ou de se laisser tuer? Alors, on peut comprendre les choses différemment, mais Bepashtout, ça veut dire, on dit Miché m'émit à ce moment-là, il se tue. C'est pas il se laisse tuer. Bien sûr que pour la Torah, on doit se laisser tuer quand ça fait partie des trois grandes averot. Ouais. Mais c'est pas marqué se laisser tuer, c'est marqué se tuer. Que veut dire se tuer? Alors, il n'y a pas de mitzvah de se tuer, on n'a pas le droit de se suicider. Mais ça veut dire on doit donner toutes ses forces. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, que du pain, pas de bamelar Torah, tu mangeras du pain et du sel, tu dormiras par terre, que ça veut dire? C'est pas une obligation, hein. On peut manger du couscous et être un tamid raham. Mais la question, c'est que même si tu n'as rien à manger, ça ne doit pas t'empêcher d'étudier. Si tu es bien, Baruch Hashem, quand on dit la Gemara, est-ce que ça dérange les Chachamim d'avoir deux mondes? Ça ne dérange pas qu'on ait à manger, qu'on ait à boire et qu'on ait un peu d'argent. Mais quand même, on peut étudier. Il ne faut pas en avoir trop parce que ça dérange pour étudier. Mais est-ce que le chidouche de la Mishnah, le Pirkei Avot, ou le chidouche de la Torah, c'est que même si on n'a pas, on doit quand même se consacrer à l'étude. Donc ici, c'est un peu plus fort encore que ça. Mishememitatsmo, ça veut dire on doit se tuer pour elle, ça veut dire donner son sommeil, donner ses loisirs, on doit se sacrifier. D'accord? Bon, ce qui est pas faux. Oui, même si ça, des fois, ça peut un peu déranger des gens qui sont au début de la route. Parce que bon, je vais pas tout sacrifier. Le squat, et les balades, et tout, enfin, sans parler d'autres choses un peu plus corsées. Mais c'est difficile de tout sacrifier. Je veux dire, pourquoi on va tout sacrifier? Il faut vivre quand même. Oui, et c'est ce paradoxe que je voudrais qu'on étudie maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se tuer pour la Torah? Oui, c'est joli à entendre, C'est joli dans une dracha, mais dans la réalisation, c'est quand on se tue. Tout le monde sait qu'au contraire, on dit Torah Traim, la Torah c'est une Torah de vie, qu'on doit kiffer dans la Torah, et que la Torah elle n'empêche pas de kiffer en dehors de la Torah, et qu'on mange, on boit, on se marie, on joue, on fait tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux. C'est pas incompatible avec l'étude de la Torah. Et l'ascétisme, c'est pas quelque chose qui est dans l'ordre des choses de la Torah. Donc comment comprendre cette idée mémitatement, vous comprenez? C'est ça le point qui m'a toujours dérangé et qui dérange un petit peu cette brutalité dans l'expression. Voilà. On a trouvé un pasouk, c'est très bien, oui. On a sauté sur le pasouk, on dit « Ah, d'accord, mais tu sautes sur un pasouk, il faut maintenant, l'intégrer, quoi. C'est pas tout de dire, oh, c'est formidable, hein. Voici la Torah, un homme meurt dans la tente, c'est QFD, il faut mourir dans la tente. Ah, formidable, faut mourir dans la tente de la Torah. Donc, il faut pas manger, faut pas dormir, faut pas ci, pas ça. Mais c'est pas la réalité, c'est pas ce que tout le monde prône. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la question. Chez Neymar, le président de Hachlakish, Zot à Torah, Adam qui amoud Beoel, un homme qui meurt dans la tente. C'est clair, Michel?
On peut pas le traduire par se fatiguer, s'user, parce que déjà, on est orienté, là.
Tu as raison.
Parce que déjà, comme on l'a orienté,
c'est vrai.
Est-ce qu'on peut aller
On pourrait dire, comme dit la Mishnah, voilà, comme dit la Mishnah Pirkei Avot, que même si, mais l'expression mourir, elle est brutale. C'est ça qui dérange. Tu vois, oublie-le-moi, ce pasouk. Si véritablement, tu as raison, on doit se fatiguer pour la Torah, on doit être prêt à sacrifier, tout ça, d'accord. Mais mourir pour la Torah, ça fait un peu, il y a des relents un petit peu de djihadisme là-dedans, Abdil, ouais. Donc ça fait un peu bizarre. C'est quoi mourir pour la Torah? Jamais personne, ça n'existe pas. Dans la Torah, on meurt pas pour ses idées, pour la Torah. On se sacrifie, on sacrifie des choses, on sacrifie des plaisirs, mais on sacrifie pas tous les plaisirs, on sacrifie pas toute sa vie. On peut exister, quoi. Ouais. C'est clair, ça? Donc je reprends à Maharsh Lakish.
C'est quand même une deuxième interprétation de la chose. Il y a le pasouk dans le contexte, c'est pas ça qu'il veut dire vraiment.
Ah oui, c'est ce que j'ai dit au début. Oui. On est dans le drash. Dans le pshat, c'est quand un homme meurt dans une tente de maladie, alors tous ceux qui sont dans la tente, ils sont impurs. Ça, c'est ça le pshat. Nous, on est dans le drash. Mais même le drash, il doit véhiculer une idée audible. Si c'est inaudible, d'accord? Et c'est aussi intéressant, de montrer que, je sais pas si vous, ça vous avait titillé, mais de montrer des choses qu'on véhicule tout le temps. Des fois, il faut les secouer, il faut secouer un peu le cocotier, parce que il y a des choses qu'on entend, qu'on accepte, et qu'on te répète, et qu'on te serine, mais si tu te regardes, tu te recules, tu veux les expliquer à quelqu'un, tu auras plus les mots pour les dire, tu comprends, moi, ça fait des années que je connais ce texte-là. Mais quand on veut l'expliquer, et les gens te disent, bon, ça, vous avez fini là, c'est bon, on peut passer à autre chose, c'est pas possible, c'est inaudible de se tuer. Ouais, mais mitatzmo, là, il faut se tuer dans l'attente. Ok, alors c'est vrai, on voit le stapler, on voit Rahim Kanievski qui bouge pas, mais bon, ils mangent, ils boivent, ils rigolent.
Ils sont pas morts.
Tu as raison, ils sont pas morts, mais on peut dire morts au sens figuré, c'est-à-dire jusqu'après A. Mais on les a pas vus, on voit qu'ils sont heureux de vivre, quoi. Ils font des autres choses que d'abord ils font des autres choses qu'étudier, il y a autre chose. Alors, Yesh Lebaer, on y va. On peut expliquer. Donc ça, c'est les paroles de Rav Zev Freund, et il va citer en fait un autre rave qu'on va avoir tout de suite. Yesh Lebaer, on peut expliquer ça, ce Mahamar de la Gemara Shabbat, Alpi Mash Amru, d'après ce qui est dit, ce qu'ils ont dit les Chazal et Chachamim dans le Midrash Tanchuma. Racha Bechayav Chashuv Kemet. Alors c'est très joli ça. Un racha, de son vivant, il est considéré comme mort. Toujours on dit les Tzadikim, ils sont vivants, même morts, et les Rechaim, ils sont morts, même vivants. Mais qu'est-ce que ça veut dire être mort, même vivant? Oui, ça aussi, c'est une phrase qu'on véhicule, brutale, mais quel sens ça a?
Il est dans le sens interdit, quoi. Il entend de rouler en sens interdit, le gars, toute sa vie.
D'accord.
Il est acté de sa blague.
Mais il n'est pas mort.
Oui. Mais pourquoi tu dis qu'il est mort?
Oui, il est mort parce qu'il ne
consigne pas. Tu sais que ceux qui écoutent, ils s'éclatent de quand tu vas. Ils adorent quand Gérard il va. Tu es la vedette plus que moi dans le suite. Oui, ils attendent. Razak, Gérard. Mais non. Alors, regarde. Il dit le Midrash. Racha bechayav, chashuv kemet. Un racha, de son vivant, il est appelé mort. Pourquoi? Regarde bien. Mipne sheroe chama zorachat, parce qu'il voit le soleil qui se lève, veno mevarer yotzer or. Il fait pas la bracha de yotzer or. D'accord? Quand ils voient le lever du soleil, ça ne l'émeut pas au point de faire une bracha. Shoka'at, ils voient le coucher du soleil en Eretz Israël, tu vois ce orange là. Venom mevarech Mari Baravim. Et il ne s'émeut pas pour faire la bracha de Mari Baravim. C'est-à-dire, c'est moi qui rajoute s'émeut. Quand on dit fait la bracha, c'est-à-dire pourquoi on fait une bracha? Pourquoi on bénit Dieu? C'est pas parce qu'on dit, ah, oh, c'est l'heure de Shacharit, c'est l'heure de Arvit. C'est que normalement, c'est tellement beau le lever du soleil, c'est tellement beau le coucher du soleil, tu te dis, Baruch HaShem, comment il est fort de faire lever le soleil vers le coucher. C'est comme ça que se devrait s'exprimer Shacharit et Arvit. D'accord? Ochel veshoté, il mange et boit des choses merveilleuses, venom mevarech alea. Aval atzadikim, mais les tzadikim mevachim. Troisième ligne, ils bénissent. C'est bon, Michel?
Oui, parfait.
Alcool d'avar devadar chez ochlin veshotim. Ils font une bracha sur chaque chose qu'ils mangent et qu'ils boivent, veshoruin et qu'ils voient, veshomim et qu'ils entendent. Ok? Mm-hmm. Bon, je sais pas pourquoi ils ont rajouté entendre dans le tzadik alors qu'il n'y avait pas dans le rachat. Dans le rachat, on a vu voir, boire et manger. Dans le tzadik, on a dit boire, manger, voir et entendre. D'accord? Que le tzadik, il est capable de faire une bracha même sur ce qu'il entend. Oui, mais c'est quoi? Faire une bracha sur ce qu'il entend.
Mais le tonnerre, par exemple, je pense.
Le tonnerre, pas mal. Moi, j'ai pensé aux bonnes nouvelles. Ah, si, mais le tonnerre, tu as aussi raison. Mais pourquoi on a rajouté ça pour les tzadikim?
C'est pour donner un degré supplémentaire.
Bon, mais ça va. Ça veut dire qu'on aurait pu le dire aussi sur le rachat qu'il ne le fait pas le tonnerre. Hein. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, regarde. Ou Bessefer Zichron Shmuel. Maintenant, dans le Sefer merveilleux qui s'appelle Zichron Shmuel, souvenir de Shmuel, la Grash Rozovski, du Gaon Rab Shmuel Rozovski. Alors, Rab Shmuel Rozovski, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler, c'est un des plus grands de notre génération, c'est un des Rashi Yeshivot de Ponyovitch. À l'époque, la Yeshiva de Ponyovitch, c'était comme la Sorbonne, l'ENA, tout en même temps. D'accord, c'est de la plus grande yeshiva d'Eretz Israël. Vous aviez là-bas un concentré de Talmid et Chachamim. Le Rosh Yeshiva, c'était Rav Yosef Kahneman. Donc, là-bas, vous avez comme Rosh Yeshiva, vous aviez Rav Shmuel Rozovski, Rav David Povarski et Rav Shach. Bon, tous des Tunisiens, vous avez remarqué, d'accord? Mais c'était des grandes lumières, c'était des phénomènes. Ils ont écrit des sfarim extraordinaires, les trois. D'accord? Les trois, c'était Rosh Yeshivot. Le directeur, c'est Rav Yosef Kahneman. Donc, c'était vraiment une des plus grandes yeshivot. Et donc Rav Shach, on sait qu'après il est devenu Gadol Hador, mais Rav Shmuel Rozovski, c'était un très grand Talmid Chacham, et ils ont publié après son décès un sefer qui rapportait tous ses enseignements. Enfin, il a écrit d'autres choses, il a écrit comment ça s'appelait, Chidushi Rav Shmuel. Et en tout cas, ils ont fait paraître un très beau sefer Zichron Shmuel. Et dans ce sefer, oui, il dit ceci: Lamad Mikan, il a appris d'ici. Chez Belachon Chazal, dans le langage des Chachamim, Nikra Chai, on appelle vivant, Rak, vous soulignez ça, Mish et Margish et Chavayat Achaim, seulement celui qui ressent les événements de la vie. C'est quoi être vivant? C'est être sensible. Voilà. Dans le langage des Chachamim, un homme vivant, c'est un homme sensible. Sensible à tout, c'est-à-dire sensible à la beauté, sensible au parfum d'une fleur, sensible aux odeurs, sensible... Alors, bien sûr qu'après, il faudra ramener ça à Hachem, d'accord? Mais la sensibilité aux choses, ça, c'est la preuve de vie. Ça veut dire, tu marches, tu entends un petit oiseau qui piaille, tu t'arrêtes pour le regarder, tu vois un papillon. Ça, c'est être vivant. Mais passer dans la rue et plus faire attention à rien, ni aux fourmis, ni aux animaux, calvachomer aux hommes, ça, c'est être un homme mort. D'accord? La mort, c'est l'insensibilité. Velo mishatum. Donc, être vivant, c'est celui qui ressent les sensations de la vie. Velo mishatum, mais pas celui qui est bouché. Veeno chash, et qui ne ressent shum chavaya, aucune sensation. Ameoreret it paralut, qui va réveiller un émoi. D'accord? Ça veut dire que on être vivant, c'est avoir encore en soi cette possibilité de s'émouvoir devant une musique, devant un paysage, devant un joli gâteau, devant n'importe quoi, un enfant. Ça, c'est être vivant. Et quand on a perdu ça, on est un homme mort, dans les paroles des Chachamim. C'est comme ça qu'il a dit Rav Shmuel Rozovski.
On peut pas penser, enfin, est-ce qu'on peut pas dire que c'est de la théorie? Pour moi, c'est de la théorie.
Pourquoi?
C'est pourquoi c'est de la théorie? Tu prends les gens actuellement, que ce soit des gens qui sont dans la Torah ou qui sont dans la vie active, il court comme des robots. Il n'a pas le temps de regarder si le papillon il a une couleur jaune ou vert ou si le gâteau il est bon. Enfin, il roule comme un forcené.
Tu as raison. Bon. Et peut-être qu'ils sont morts tous ces gens-là.
Non, il ne faut pas dire ça, David. Je veux dire qu'ils courent après le temps. Enfin, ils veulent.
On est d'accord. Partout. Mais peut-être que ça s'appelle être mort. Ah, c'est être mort. Ils sont dans le coma. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable, même s'il étudie, si quelqu'un il étudie et qu'il n'est pas capable de s'arrêter, toujours raconte sur les grands rabbanim que le rab, la fameuse, il y a des histoires et des photos extraordinaires. Il y a une très très belle photo de Rav Elio Lopian, qui était le rab de Kfar Hasidim, en train de donner à boire du lait à un chat. Il y a des histoires extraordinaires sur le rab Raikin, qui s'arrêtait et qui regardait autour de lui. Il voyait des fois un papillon qui rentrait dans un petit truc. Regarde. Ça veut dire, les rabbanim, plus ils sont grands, plus ils sont sensibles à des choses petites que nous on ne voit plus. En réalité, tout on devrait être sensible aux mouches qui t'entourent, aux moustiques qui viennent se poser devant toi, au tonnerre, mais en vérité, on devient insensible aux choses et on devient insensible aux humains. En réalité, on devrait être sensible aux gens qui nous entourent. Alors c'est vrai qu'on se fait des carapaces parce que trop de sensibilité, après on peut plus avancer. Puis tu peux pas passer ton temps à regarder les papillons. T'as raison. Mais c'est vrai qu'on est pressé. D'accord? Mais quand on a un peu de temps, on doit pouvoir s'arrêter. Et quand la Guémara se ferme, tu peux regarder le type qui est à côté de toi et t'apercevoir qu'il boite ou que tu vois, voir les choses. Sinon, on voit plus rien autour de soi. Oui, Albert.
À côté de ça, on entend aussi d'un rave actuel, un rave actuel, qu'on disait. Alors, il était en train d'étudier, sa femme a servi à manger, il a mangé, il ne savait même pas ce qu'il a mangé. Donc, bon. Je veux dire,
Chazakov,
un grand exemple de.
Chazakov, c'est une très bonne remarque. Et cette histoire-là, elle a fait beaucoup de tort. Il faut bien l'apprendre. Comme on raconte aussi que tel rave, il mangeait, c'était dégoûtant. Toute sa vie, il a mangé dégoûtant. Il n'a jamais voulu dire pour ne pas dire à sa femme. Il y a plein d'histoires comme ça. Il faut d'abord les vérifier, voir comment elles étaient. Et les comprendre et voir dans quel contexte c'était. D'accord? Il faut comprendre le contexte. Mais souvent, on prend des histoires qu'on applique à tout le monde. Alors que ce sont des cas exceptionnels. L'erreur, c'est de les citer en exemple pour le grand nombre. Alors qu'en fait, ce sont des exemples pour des gens d'exception, avec des femmes d'exception, avec des situations d'exception. Personne n'a demandé de manger dégoûtant et de dire à sa femme, oh, c'est délicieux. Pourquoi? Si tu le fais gentiment et que tu dis à ta femme, tu sais, ma chérie, un peu de sel, un peu plus de sel, c'est bien meilleur. C'est pas tous les repas. Ou lui dire, tu sais, les petits pois, c'est pas mon truc. Tous les repas, les petits pois pendant 7 jours sur 7. Si tu faisais petits pois, des fois des carottes, des fois des haricots verts. Si tu le dis gentiment, au contraire, personne n'a demandé. Non, mais on raconte toujours des histoires. Il a mangé n'importe quoi pendant toute sa vie et il a souffert. Mais c'est pas ça la Torah. Tout le monde, c'est pas ça la Torah. Et diffuser ces histoires pour tout le monde, ça c'est une erreur. C'est bien que tu l'aies dit parce qu'on a un problème avec toutes ces histoires. Parce que la réalité c'est pas ça. Le Rav Raikin, parce que moi j'en parle toujours parce que je le connais, il aimait. Mais même tous les Ravadim que je connais, ce qu'ils aimaient, ils aimaient. Quand ils voulaient un peu de sel, un peu de sucre, ils disaient voilà, donne-moi une cuillère de miel, donne-moi ci et j'aime ça. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui aiment des choses simples. D'accord? Mais ils aimaient les choses simples. Ça veut dire qu'il aimait un poisson et une tomate coupée. Mais il adorait ça. Il pouvait en manger tout le temps. Tu vois, comme un thune, il peut manger du couscous tous les jours. Tu ne dis pas qu'il est malade. Il adore ça. Alors, la même chose, il adore des choses simples. Mais quand tu lui donnes une bonne chose, il y est sensible. C'est ça qu'on dit. OK? Troisième ligne. Alors regardez bien, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Chez Ika Chaya Adam, l'essentiel de la vie d'un homme, M. Ergeshe Nafsho. Donc l'essentiel de la vitalité, c'est les sensations nafsho de son âme, vedato et de son esprit. La vie, c'est quoi vivre? C'est ressentir. C'est quoi ressentir? C'est ressentir avec son nefesh, ça veut dire son gouffre. Enfin, on ne parle pas de gouffre, parce que le gouffre, c'est la matière. Mais le nefesh, c'est l'âme animale qui anime le gouffre. C'est vedato et son esprit. C'est quoi vivre? C'est ressentir quelque chose dans son esprit. Ressentir un sentiment, ressentir une sensation, ressentir un plaisir, ressentir une idée intellectuelle qui va te faire vibrer. Ça, c'est vivre. Ou bien ressentir avec son corps. Vous voyez? Ikar chaya adam, emergeshe nafshu vedato, vi'im en argashato chaya. Et si ses sensations ne sont pas vivantes, Areo Kemet, il est mort. C'est bon?
Voilà, il peut le laisser pour les grandes vacances, tu vois. Il est.
Ve'im aitaba adam.
Voilà, c'est plus facile.
Maintenant, si il avait un homme, argacha, la sensation, bemelo uza, dans sa pleine puissance, si un homme, il avait des sensations dans leur pleine puissance, c'est-à-dire s'il avait développé cette sensibilité aux choses, are voici bir oto chamazo rachat, quand il voit le soleil qui se lève, davar amafim lève, quelque chose qui lui fait teinter le cœur, mafim c'est teinter, ayamagia, il arriverait les akara à la connaissance, ve emuna et à la croyance, confiance, croyo-confiance, hein, puisque le terme d'emuna ici, il faut le traduire par les deux, beboré alam dans le créateur du monde, on va regarder or. Ça veut dire que tu sais pourquoi, c'est intéressant, tu sais pourquoi un homme il n'a pas la emuna? Parce qu'il n'a pas la sensibilité. Que le fait de taire, de courir toujours et d'être plus sensible à rien, au contraire, c'est ça qui va t'enlever la emuna. Parce que si tu étais sensible, tu verrais des choses tellement extraordinaires. Tu vois une marguerite, tu vois n'importe quoi dans le monde, mais ça te remplit d'extase. Et à ce moment-là, c'est sûr que tu fais facilement le lien avec Hachem. Le monde, il est tellement beau, les fleurs, la nature, la neige, le tonnerre, quelle que soit la saison, les choses sont extraordinaires. Tu vois un chat, tu vois n'importe quoi. Ça peut te remplir d'extase et te ramener vers Hachem. Uberoto machazé marhiv, et en voyant une vision extraordinaire, umufla et merveilleuse, shel shkiat hachama, du coucher du soleil, bevadai, c'est sûr, ayam machazé, cette vision-là, mevio l'aurait amené, les akara, à la reconnaissance, bebore idbarach, du créateur, amari barabim, qui fait coucher le soir. C'est juste un problème de sensation, ok, de sensibilité. Donc on doit éduquer nos enfants à cette sensibilité. Et nous-mêmes se rééduquer. D'accord? Être des grands enfants. C'est ça qu'il faut. Toujours être des grands enfants. Et les grands rabbanim, ils sont comme des gamins. Ils sont comme des gamins devant le monde. Oui? Ben, Réchaïm. Par contre, les Réchaïm, Aroïm qui voient, Venam et Vahim, et qui font pas de bracha, Aréem, Kemetim alalou, ils sont comme des morts, Shenam, Margishim, Kloum. Ils ne ressentent rien. Donc, c'est extraordinaire que cette analogie, Tzadik, Chai, Racha, Met. D'accord? Habituellement, on le dit, il est vivant parce que le spirituel, etc. Alors que le Racha, il est mort parce que, comme tu disais, il est fichu, il est mort, il a un Racha, il a plus de Neshama. Ce qu'on a l'habitude de dire. Alors que Dino, ça n'a rien à voir. Vivant et mort, qu'on colle Tzadik et Racha, c'est simplement la sensibilité. Si on est un Tzadik, d'accord? Normalement, on doit être un être sensible et donc vivant. Si on est un Racha, on est considéré comme un mort parce qu'on n'a plus de sensibilité. La preuve, c'est que si tu étais vraiment vivant, toi le Racha, tu ne pourrais pas être un Racha. On ne peut pas être un être sensible au monde et accessible au monde et être un Racha. Ça, c'est le bel enseignement qu'il a fait Rav Shmuel Rozovsky, d'accord, sur les notions de vie et de mort. Là où ça se complique, c'est que notre cher Rav Zev Freund, il a pris cet enseignement, oui, et il l'a désintégré, d'accord? Vous allez voir ce qu'il va en faire, d'accord? Parce qu'on est venu à une vision, le tzadik vivant, le racha mort, ouais? Le problème, c'est qu'on est parti d'un pasouk, Adam ki amut ba'oel, qu'un homme, il doit être mort. Et que pour la Torah se conserve, il faut être mort.
Donc,
il faut être racha. Donc, il y a un problème, là. Ou bederherzou, regardez bien, ce dernier paragraphe, autant le paragraphe de Rav Shmuel Rozovsky, il était tellement beau, tellement lumineux, autant là, on va rentrer dans le tunnel. Regardez bien. Ou bederherzou. Donc là maintenant, le deuxième paragraphe, c'était les mots de Rav Shmuel Rozovsky. Vous ferez attention, c'est des mots très poétiques. C'était la génération du Chazon Ish et de Rav Shmuel Rozovsky, ce qui étaient des gens qui avaient une expression poétique, que maintenant on n'a plus. Ils parlaient avec des mots très beaux, avec un langage imagé, c'est extraordinaire la manière d'y parler. Alors regardez maintenant ce qu'il dit Rav Zev Freund. Donc Rav Shmuel Rozovsky, il est niftar. Au Bederezou, il y a les Shefaresh. Sur cette même voie, qui dit, hein, il y a les Shefaresh et Mahamaram, on peut expliquer la parole des Chachamim, She'en la Torah mitkayemet ela bimi shememit atzmo aleha. Qui a dit ça, Michel?
Vas-y, redis.
En la Torah mitkayemet ela bimi shememit atzmo aleha. On l'a vu, on l'a entendu. On l'a... Qui a dit ça? Resh Lakish, où ça? Où il a dit ça? On l'a vu en haut. C'est l'en-tête. Où il a dit ça? Amaresh Lakish, c'est la deuxième ligne. Alors, où il a dit ça? Gérard. Voilà, dans la Gemara Shabbat. Et vous avez la parenthèse. C'est marqué, tout est marqué. Hein. Très bien. Alors maintenant, pourquoi? Quel rapport? Deinu, c'est-à-dire, Shemi Shetorato, celui dont la Torah, Itorat Chaim, est une Torah de vie, a Torah Memalet Oto, la Torah le remplira, Bechavaya Rochanit, de une chavaya, ça veut dire d'événement spirituel, de une chavaya, il y a un mot, c'est un mot en hébreu, une chavaya, c'est un
souffle.
Non. Une chavaya, on dit par exemple quelque chose. Non. Oui, mais on dit ça, c'est une chavaya. Ça veut dire par exemple, tu assistes à une grande fête ou quelque chose d'extraordinaire, ça c'est une chavaya. Un événement, voilà, un événement. Donc, quelqu'un que la Torah, c'est une Torah de vie, eh bien, la Torah va le remplir de...
De vie.
Comment on va dire ça? De Chavaya Ruchanit.
D'énergie. Spirituelle.
Non.
Oui, d'événements spirituels, je trouverai. Chez Tofeset, qui vont embrasser et Kol Nafsho, toute son âme, Ad chez En Baolam, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans le monde Shum Davar, aucune chose, chez Mesugal, apte, les Rachev, être considéré, les Gabav pour lui, Chavaya, comme. Qui est apte, les Rachev, je vais réexpliquer, la phrase elle est dure, les Rachev, les Gabav, apte à être considéré chez lui, Chavaya, comme un événement chez Mechay et Nefesh qui lui fait vibrer son âme. C'est dit comme ça, que quand quelqu'un, il est véritablement investi dans la Torah lui procure tellement de plaisir, tellement de bonheur, tellement de possibilités d'expression, qu'il a, plus rien n'existe dans le monde. C'est-à-dire, quand il est dans un Tosfot, quand il est dans un Maharsha, quand il est dans une expression de la Torah, oui, eh bien, le coucher du soleil ne te fait plus rien, les papillons ne te font plus rien. Oui. Pourquoi? Parce que, finalement, cette extase que tu as devant le monde, tu l'as devant la Torah. Oui. Ça veut dire que tu t'extasies devant une phrase des Chachamim, devant une réponse de Tosfot extraordinaire, devant une expression de la Torah, et donc, finalement, par rapport au monde, tu es...
Donc, c'est celui qui mange les oranges.
Par rapport au monde, tu es quoi?
Tu
es mort. D'accord?
On ne retrouve pas.
Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On a une question. On a intégré la notion de vie et de mort. Vie et mort, c'est extase. La vie, c'est l'extase. S'extasier, dans le sens le plus noble. La mort, c'est l'insensibilité. Alors, je ne comprends pas. Il dit comment la Torah, elle peut dire qu'un homme, il doit mourir dans l'attente pour la Torah. Oui? Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, c'est sur la même voie. Mourir, c'est pas mourir.
Physiquement.
C'est-à-dire, si effectivement, vivre, c'est s'extasier, on doit toujours rester vivant, mais on doit s'extasier devant la Torah. Et quelqu'un qui est complètement investi dans la Torah, finalement, il devient insensible au monde, oui, et il devient insensible aux papillons, au lever du soleil, au coucher du soleil.
C'est pas ce qu'il dit.
Si. Il dit... Alors, je reprends la phrase. La deuxième phrase, elle est très dure. C'est un paragraphe très dur. Mais laissez bien écouter, laissez-vous pénétrer par ces mots. Et après, on va lui sauter dessus. Ouais. Parce qu'en réalité, moi, quand je l'ai entendu, c'est pour ça que j'ai fait un bonus. Parce que quand je l'ai lu, et je voulais le manger tellement ça me paraissait difficile, cette vision-là. Ouais. Dehainu, c'est-à-dire, Mish Torato, celui dont la Torah, Itorat Chaim, c'est une Torah de vie. Je suis à la deuxième ligne du dernier paragraphe. Eh bien, à Torah, mais mal at auto, la Torah le remplit Vous êtes bon? Bechavaya, d'expérience. Ah voilà, une chavaya, c'est une expérience. Rouhanit, spirituelle. Chez Tofeset, qui embrasse. Et embrasse ou embrase aussi, c'est la même chose. Et kol nafsho, toute son âme. Tellement. Ad she'en ba'olam shum davar. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le monde. Chez mes sougal, qui soit apte. Les chachev, les gabav, être considéré pour lui. Chavaya, comme une expérience chez Mechay et Nefesh, qui fait vibrer son âme, Milvada Torah par la Torah. Il n'y a plus rien qui le fait vibrer à part la Torah. Ah, peut-être, effectivement, comme il dit Albert, ça nous explique l'histoire du Rav qui trouvait les cailloux bons, il mangeait la soupe fade, salée, tout, il s'en fichait de tout. Ça a l'air d'être ça. Adam Kazé, un homme comme ça, vous y êtes bon?
Oui.
Shelo Chava, qui ne ressent Shum Chavaya, aucune expérience, Veshum Itpa'alut, et aucun émoi. Itpa'alut, c'est l'émoi. Chiyunit, vital, Miman Ame Olam, des délices du monde, Umloho et de ce qu'il contient, Elame, Kol Chavayato, toute sa vie, Irak Mitorat Chaim, elle n'est que de la Torah vivante, un homme comme ça, donc le cas d'Albert là, qu'il ne ressent plus rien, tout est pareil, Allo ou Nirshav Kemet, il est considéré effectivement comme un mort, les gabés par rapport, Kolman Ametevel, toutes les plaisirs du monde. C'est bon? Vous avez marqué les mots là? Vezeu Apirouche, et c'est ça l'explication de Resh Lakish. Shumemit atzmo, il se fait mourir à la Torah. C'est quoi? Il se fait mourir à la Torah. Ça veut dire il fait mourir son extase devant le monde pour la Torah. En Torah mitkayemet el haetzlo, la Torah n'existe que chez des gens comme ça qui sont capables de manger des cailloux et ça leur fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Tosfot qui leur remplit la tête.
Ouais, ils ont compris.
Ça a l'air merveilleux, ça a l'air même angélique. Oui. Alors, est-ce que c'est en antinomie ou pas en antinomie?
On a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre.
Alors,
complètement.
On a l'air, dans le Zichron Shmuel, oui, il a mis en valeur, et on a mis en valeur dans les exemples qu'on a donnés, cette facilité, cette possibilité d'être un enfant. Hein, on va dire pour être quelque chose qui nous parle, d'être un enfant, d'être émerveillé de tout. Ok? Donc, c'était une sorte d'ouverture.
D'être dans le monde, vraiment. Alors que là,
d'être sensible au monde. Et ici, plouf, il referme la porte, il dit, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, il faut fermer. C'est dans le noir du monde. On est dans la lumière, d'accord? Alors, c'est vrai, mais on retombe dans la vision de d'habitude, où on te dit, tu sais quoi, dans la Torah, il y a tout. Il y a l'argent, il y a la lumière, il y a le couscous, il y a la musique. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a le sport, tout est dans un Tosfot, tout est à la Yeshiva, et finalement, tu n'as besoin de rien, à part une Gemara, et le café, et encore. Même le café, le plaisir du café, tu vas le trouver dans la Gemara. En exagérant, d'accord? C'est ce qu'on entend, d'accord? Ça veut dire qu'il faut mourir, il n'y a plus de plaisir.
Même jusqu'à la fin, on dit, c'est que cette voie-là, c'est que par cette voie-là, tu vas pouvoir avoir la richesse. Non, c'est plus que ça.
Non. Tu vas avoir le bonheur, pas la richesse.
Non, le bonheur, mais tu peux le trouver que dans le noir, quelque part.
Voilà.
Que dans ce noir.
Dans ce noir extérieur. Mais attention, il faut aussi lui rendre justice. Il dit que ce noir de l'extérieur n'existe que parce qu'il y a une lumière intérieure et que la lumière intérieure te remplit. Alors, c'est pas faux ce qu'il dit. Ça veut dire que comme l'a dit un grand chercheur, quand des fois on est dans une étude, oui, on s'en fiche, on est pris par l'étude, on est pris par le plaisir de la Torah. Alors, on n'a pas besoin de manger, de boire, de dormir. On s'oublie là-dedans, c'est vrai. Mais est-ce que c'est quelque chose sur du long terme, pas du long terme? C'est ça qui m'avait dérangé. Alors, tout de suite, on va faire le bonus. Regardez, vous tournez la page. Alors, ça m'a rappelé une Mishnah dans Pirkei Avot. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, elle a l'air de dire exactement comme le Rav Freund. Donc on est dans le troisième Perek à la neuvième Mishnah. Rabbi Shimon Omer. Vous êtes bon? Ame'aler baderer, celui qui marche sur la route. Veshone et qui étudie. Hein, comme c'est la mitzvah de la Torah. Ou v'lertecha baderer, qu'on doit étudier quand on marche. Comment on peut dire quand on marche? On répète des Mishnayot, on répète le Spit Torah quand on va au travail, tu le répètes dans ta tête, tu répètes ce que tu as étudié la veille. Donc, Amehaler, derrière celui qui marche dans le chemin Véchoné et qui étudie, ou Mafsig Mimishnato, et il interrompt son étude, Véomer, il dit, Manae Ilanze, comme il est beau cet arbre, Manae Nirze, comme il est beau ce champ. Donc, l'arbre, c'est une création d'Hachem. Nir, c'est le champ labouré, c'est une création de l'homme. D'accord? Il s'extasie sur des ponts, sur n'importe quoi. Ma'ale ala avakatouv, le verset considère sur lui, kilomit chayev benavche, comme s'il était coupable de sa vie, comme s'il était coupable de mort. Comme c'est a dit cette Mishnah très brutale dans Pirkei Avot. D'accord? Donc le type, il est tranquille. D'accord? Il est sur la route, il répète des Mishnayot, il répète du Tehilim, il répète le Spit Torah, puis tout d'un coup, il voit un cerf qui traverse la route, il fait oh! D'accord, il arrête d'étudier, ou il voit à côté de lui, je sais pas quoi, il voit une cascade, il fait waouh, wow, comme c'est beau, Hayav Mita, paf, direct. La Mishnah dit Hayav Mita. D'accord, donc ça a l'air de correspondre à Rav Zev Frand. D'accord, qu'il faut choisir son lieu de vie, son lieu d'extase.
Ok. Mais ça dit qu'il était superficiel dans son étude, celui-là. Hein. Le moindre bricole qui passe, ça a fait son attention.
Ça a l'air.
Il n'était pas absorbé par son étude. Là.
Alors, donc, en tout cas, ça a l'air de corroborer ce que dit Rav Frank, d'accord? Alors maintenant, pour pouvoir enfoncer le clou et vous faire poser la question, parce qu'en réalité, le Dvar Torah en lui-même, c'est celui-là, du speed. Ouais. D'accord? Le bonus, c'est un sujet de réflexion que je vous soumets. Et c'est un Rambam. Le Rambam, dans Ilchot Yisodé à Torah, donc je l'ai photocopié, il dit ceci. Donc c'est le début du Rambam dans Mishneh Torah. Sur Ilchot Yisodé à Torah, c'est les lois des fondements de la Torah. 5 minutes, hein. Il dit ceci. Ael anichbad va anora aze, ce Dieu grand et redoutable, mitzvah le aavo, c'est une mitzvah de l'aimer, olir am emeno, et de le craindre. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras, mais Neymar et Hashem Elokecha tira, ton l'éternel, ton Dieu, tu le craindras. Donc, c'est les deux mitzvot, avaïra. Ve'er i aderer, c'est comment la voie, les aavato ve'ir ato, pour l'amour et la crainte de Dieu.
C'est quoi la crainte de Dieu?
Alors, Besha'a shi'it bonen adam, quand un homme, il va, ça c'est les paroles du Rambam, il va réfléchir. Bema'asav, sur les actions de Dieu, au Brouav, et ses créatures aniflaïm merveilleuses, agdolim et grandes, sur les astres, sur la nature, veir emem chochmato, il va voir la sagesse divine, she'en la erer, qui n'a pas de valeur, veloket, c'est pas de fin, c'est infini la puissance et la beauté du monde et de la nature. D'accord? Il suffit de voir les émissions de Géo et de trucs comme ça, c'est une merveille ce que tu vois. Que ça soit les animaux, que ça soit la nature, que ça soit la science, tu restes la langue pendue. Ah, il dit le rabbin, miyad, tout de suite, ou ohev, on aimera, ou meshabéar, et on louera, ou mefaer, et on glorifiera, ou mitave ta'ava gedola, et on aura un grand désir, les da Hachem Agadol, de connaître Dieu, puisque le but, c'est la connaissance d'Hachem. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué, comme il a dit David Ameler, Tzama nafshi l'Elohim l'El Chai, elle est assoiffée mon âme du Dieu vivant. Vous êtes bon là? Ukshemechashev bidvarim elu. Et quand on réfléchit à ces choses-là, Atzmam, Miyad unirta le'achorav, que tout de suite après le sentiment d'amour qui s'exprime, eh bien, on recule en arrière, veyare, et on craint, veyfachad, et on a peur, veyodea, et on sait, shiubria ktana, qu'on est une petite créature, shfela, basse, afilu omed, bedat kala, meuta, afela, sombre, omed, bedat kala, meuta, avec un esprit qui est petit, lifne temim deot, devant le Dieu de la connaissance. Ça veut dire que, ici, il y a ce mouvement d'aller-retour, que la nature, la beauté de la nature et du monde et de la création, ça te remplit d'un amour extraordinaire. Et quand tu vois, tu te sens tellement petit devant tellement de chokhma, tellement de beauté, que ça, ça va te donner ce sentiment de ira, pas de peur, mais de crainte, de respect. Tu vois, c'est comme tu as un immense savant devant toi. Tu l'aimes parce que c'est beau. Puis à un moment, tu te sens petit. Il est tellement loin, tellement grand de toi. C'est la même chose. Quand tu vois la nature, tu vois la création, ça te remplit d'amour devant la puissance d'Hachem. Puis après, tu te sens tout petit. Tu dis, moi, je fais le malin. Je crois que je vais faire et j'ai fait, j'ai créé, j'ai construit. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce qu'il fait Hachem ? Kemoshe Amar David, comme il a dit David Ameler, Kir Echamecha, quand je verrai tes cieux. Ma Enoch qui tiskerenu. Et la fin du pasouk, c'est qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ulfi advarima elu, et d'après ces choses-là que je viens t'expliquer de le Rambam, ani mevaer klalim gdolim, je vais te donner de grandes règles, mimaase ribon haolamim, des actions du maître du monde, kedesh yu petach la mevin, parce qu'après dans la suite, je voulais pas marquer, mais le Rambam il développe les astres, la nature, etc., kedesh yu petach pour que ça soit une porte, les mevin pour celui qui comprend, les ovet Hashem pour aimer Hashem, kemoshamu rachamim, comme ils ont dit les Chachamim ben Yanava dans cet amour d'Hachem, j'ai mis Torkar, parce que par là, Atamakir et Mishamar et Olam, tu reconnais celui qui a parlé pour créer le monde. Donc il dit le Rambam, pas seulement, et c'est là où le Rambam il fait un pas de plus par rapport à Shmuel Rozovski. Shmuel Rozovski, il a dit oui, l'extase, l'ouverture au monde, c'est être vivant. D'accord ? Et sinon, c'est être mort. Bon, ça va, mort vivant. Mais on a dit, bon, il a dit Rav Safran, c'est pas grave ça. Et c'est qui t'a demandé d'être vivant ? Il faut être mort dans le monde. D'accord ? Il faut être mort au monde pour être dans la Torah. D'accord ? C'est notre cheminement. Nous, on a dit, un homme, il se meurt dans la Torah. On a dit, oh, ça, c'est brutal. Arrive Rav Shmuel Rozovski, il a dit, je t'ai expliqué. C'est quoi ? Lui, il n'a pas parlé de ce pasouk, mais on a récupéré cette explication. Il dit, un homme vivant, c'est un homme qui s'extasie, qui est ouvert à la beauté du monde. Un homme mort, et en général, c'est un tzaddik. Un homme mort, c'est un homme qui est fermé, qui ressent plus rien, qui n'a plus aucune sensation devant le monde. Ça, c'est un mort. Aïdé Rav Safran, c'est QFD. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme qui a Moudbaouel, un homme qui meurt dans l'attente? C'est que quand on est la Torah, hein, oui, on doit être mort au reste du monde. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah te donne tellement d'extase que le reste du monde n'a plus aucune valeur. Bon, c'est un peu, on a du mal, mais on t'entend. Jusque là, c'est cohérent. Et c'est cohérent avec la Mishnah Birkavot. Si tu es en train d'étudier, il ne faut pas t'arrêter pour voir le monde. Tu es dans l'étude, ça doit te remplir, comme il a dit, ah, sinon c'était superficiel. Allez, jusque-là, ça a l'air cohérent. Arrive le Rambam, moi je vous cite, et dit, ah mais attention, hein. Vous savez quoi, si vous voulez progresser dans l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, il faut passer. Est-ce que c'est passer ou rester? Est-ce que dans l'amour de Dieu, il suffit de passer ou il faut rester? C'est-à-dire, quel que soit l'amour, oui, l'amour ça se cultive. Tu peux pas dire à ton épouse, ah, c'est bon, je t'aimais, on s'est marié à 30 ans, je t'ai beaucoup aimé, mais maintenant c'est bon, on est marié. Et aimer, c'est quelque chose qui se cultive, tu peux pas rester avec quelqu'un si tu l'aimes pas. La même chose, aimer Hachem, tous les matins et tous les soirs, on dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu, pas tu l'aimes, tu dis pas, oui, à la bar mitzvah, je l'ai aimé. Tout le temps, il faut l'aimer. Alors il dit, le Rambam, comment on peut faire pour l'aimer? Il faut être ouvert sur le monde. Donc on a un cric-crac là. Comment on fait? D'un côté, on te dit, il faut te fermer à l'ouverture du monde. Et de l'autre côté, on dit le Rambam, il faut être sensible à ça si tu veux aimer Dieu et si tu veux craindre Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pris
entre deux feux.
Oui. Ça, c'est la question. D'accord? Donc, cette question, je vous la laisse, donc, puisque c'était le bonus du Speed Torah. Le Speed Torah en lui-même, il est beau, un peu brutal, mais beau. D'accord? Mais c'est justement pour atténuer ou comprendre cette brutalité que j'ai mis ce Rambam qui a l'air, a priori, d'être pas en accord avec l'interprétation que Rav Zefrand il a fait selon le pshat de Rav Shmuel Rozovski. C'est clair ça? Donc ça, on fait du travail. Le Speed Torah pour répéter et le bonus pour réfléchir. Et Chavez!
Ouais, ce qu'on peut dire, David, c'est que si quelqu'un il est en train d'étudier,